Marcel Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Eh bien nous voilà au mois de novembre aujourd'hui, novembre. C'est un mois un peu historique en France, pour de nombreuses raisons. Un peu ludique aussi, on pense à la vogue de la Saint-Martin.
C'est la Saint-Martin,
c'est important.
Oui.
Pour les enfants et pour les grandes personnes aussi. Mais en même temps, c'est un mois qui nous rappelle aussi l'histoire de France, ne serait-ce que le 11 novembre, c'est-à-dire pour vous...
Je ne sais plus.
Bien, ben c'est bien. Un certain armistice
c'est, mais oui.
Oui, de 1800... 1800. C'est ça, 1900.
Hein.
1918, dans la forêt de Retonde, non, dans la forêt de Seyon. Dans la forêt de Seyon, eh bien, ça s'est fait dans la forêt de Retonde, vers Compiègne. Et nous, on a la forêt de Seyon, parce que cette forêt a vu naguère...
Un petit bonhomme,
et puis avec une petite fille, le frère et la sœur, qui caracolait sur un cheval, bien sûr, a cru les diables. Et ce petit garçon s'appelait Edgar Quinet. Edgar Quinet et la petite sœur étaient Blanche Quinet. Donc, pour dire que nous prenons l'histoire en route et pour retomber, pour rebondir sur la forêt de Seyon, même sur Bourg-en-Bresse, et puis aussi sur l'histoire, ce brave Edgar Quinet avait écrit beaucoup. C'était un historien,
un philosophe, un grand remueur d'idées,
actif, un grand républicain, ce qui lui a valu d'être
exilé en Belgique, à Bruxelles.
Oui,
puis la Belgique l'a chassé après, donc il est allé en Suisse.
Allé en Suisse, sur les bords du lac Léman, à Vétot, V-E-Y-T-A-U-X, c'est pas très très loin de Lausanne, c'est très romantique, c'est très joli. Et il a beaucoup écrit, Il est né en 1803, le 17 février 1803.
Ça va faire 220 ans.
À Bourg-en-Bresse, oui.
Il est né à Bourg, oui, c'est ça.
La rue de Samaritaine, à l'hôtel de Varennes, on va dire, là où il y a le collège maintenant Saint-Pierre, pour décéder fin mars 1875 à Versailles. Et donc cet écrivain a été très prolixe, il a beaucoup écrit de grandes lettres, de longues lettres, d'innombrables lettres, sa correspondance est très riche, particulièrement... Ces lettres étaient adressées à sa mère,
beaucoup,
à des amis, des historiens comme Jules Michelet.
C'était son ami, Jules Michelet,
Ami de Collège de France. C'était des visionnaires aussi, on peut dire.
Anticléricaux,
mais qui, en ce qui concerne Quinet a été élevé dans la religion protestante, malgré tout, car sa mère
était
née à Pontarlier, tout proche de la frontière suisse,
dans le Doubs,
était calviniste. Donc, très tôt...
Oui, elle l'a quand même fait baptiser.
Elle l'a fait baptiser, oui, quelques jours après la naissance à Notre-Dame de Bourg. Il a été baptisé. Et 1803, et en 1800, après la guerre de 70, et il avait écrit sur le siège de Paris, c'est la Commune.
La Commune,
les années, les journées dures, noires, on était assiégés par l'hiver et puis aussi par les adversaires, les Allemands et les Prussiens. Et il avait écrit ceci en parlant du siège de Paris. Il avait écrit, c'était prémonitoire, et voyez aussi les conséquences de notre défaite, de notre traumatisme.
Nous, on l'avait bien cherché quand même.
Bon, c'est vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds. Oui, on était un peu ignorants, on était un peu légers en face d'une machine de guerre, hélas, que nous connaissions, mais on était restés tranquillement à regarder autre chose. Et il avait écrit « L'Alsace et la Lorraine sont les deux boulevards de la France. Que la Prusse possède ses remparts, et la Prusse peut déborder sans trouver d'obstacle jusqu'à la Marne. »
Mais voilà.
Voilà. Bon, tout est dit. Les mots sont pesés, deux boulevards, donc ça veut dire qu'on peut circuler aisément. La Prusse, eh bien, la Prusse, voilà, sachant que la Prusse fut formée aussi par beaucoup, beaucoup d'étrangers, des Huguenots qui avaient quitté la France après la révocation des édits de Nantes, 1785. Donc, ces Français sont devenus Prussiens par la suite, amenés leur savoir, leur savoir-faire, aussi bien intellectuel que manuel,
beaucoup.
Donc, que la Prusse possède ces deux remparts, en somme, si on peut dire, si elle nous prenait l'Alsace et la Lorraine, et la Prusse peut déborder sans trouver d'obstacle, c'est la plaine, jusqu'à la Marne, c'est ce qui arrivera en 1914. Heureusement qu'il y a eu la bataille de la Marne, sinon on peut dire qu'avec l'océan, peut-être qu'il les aurait arrêtés.
C'est ça.
Hélas, hélas. Donc, Bourg-en-Bresse, nous étions à la forêt de Seillon, toujours aussi belle, cette grande forêt, aux portes de Bourg. Pourquoi était-il à Seillon ? Eh bien, parce que les parents possédaient une demeure à Sertine.
Sertine, oui. Où il a passé toute son enfance. Et même quand la maison a été vendue en 1836, il y retournait quand même à Sertine.
Oui.
Parce que c'était ses remparts de toute son enfance.
C'était le bonheur là-bas.
Ben oui,
c'était la campagne.
Il a été heureux. Ben, il a été heureux surtout par sa mère.
Oui, c'est ça.
Parce que son père était quand même assez intransigeant.
Le père était sévère.
Il était austère. Faut dire que sa mère, sa mère était terrible. La grand-mère Quinet, c'était une abomination.
Oui.
Parce que le père...
On dirait que vous l'avez bien connu.
Oui, c'était mon copain de classe. le père, quand il était petit, il cultivait... Enfin, il n'était pas petit, il était jeune homme. Il cultivait des fleurs.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et sa mère, je pense qu'elle détestait ses enfants, elle avait tout arraché.
Oui.
Si bien que la nuit, le petit Jérôme a scié les troncs des arbres fruitiers du jardin.
Oui, mais c'est
vengeance.
En vengeance.
Oui, parce qu'elle avait tout détruit, ses parterres de fleurs. Donc, bien évidemment, il a été obligé de s'exiler, parce que c'est comme ça qu'il est rentré dans l'armée.
Voilà.
Parce que sa mère était odieuse. Mais même le petit Quinet, il avait horreur de sa grand-mère.
Oui, bien qu'elle ait dit, en le voyant au berceau, il aura de l'esprit.
Oui, mais il fallait qu'elle dise quelque chose.
Ben oui, voilà, ce sont
son
des paroles.
Son père était bien particulier. Sa mère était très aimante.
Oui.
Et d'ailleurs, il dit que c'est par elle qu'il a tout appris.
C'est par elle qu'il a tout appris. C'est exact,
ça,
oui. Et cela explique les lettres innombrables qu'il avait écrites à sa mère. La première, elle était tout petit, et il l'avait écrite à Jasseron déjà.
Oui.
À la Jasseron.
Oui, parce qu'ils allaient aussi à Jasseron, ça ne leur coûtait pas très cher. Non. Et la grand-mère Quinet, elle avait quelques arpents de vigne à Trécona.
Tout à fait.
Et c'est comme ça qu'ils buvaient le vin. Pendant toute l'année, ils buvaient le vin de Trécona. De la famille Quinet buvait le vin de Trécona.
Ça les a maintenus en bonne santé, pense.
Voilà.
Parce que Quinet a profité 1803-1875.
Oui, c'est ça.
Malgré la contrariété, malgré des souffrances. Vivre à l'étranger à l'époque, c'était différent peut-être d'aujourd'hui. Il était en Belgique,
oui.
Il y avait le climat, la nourriture est différente. Et ensuite, au bord du lac Léman, bon, peut-être qu'il y a assez très poissonneux. Et puis il y a une sorte de contrariété, de ressenti. Il faut s'adapter.
Ils se sentent un peu exilés aussi.
C'est l'exil.
Oui,
c'est l'exil. La France vous manque.
Voilà, bien évidemment.
Et puis la famille. La mère est décédée en février 1847.
Voilà.
La mère est décédée en 1847. Et donc le père était dans l'armée. Ça serait presque comme
commissaire des armées.
Oui,
Alors c'est quoi commissaire des armées?
Il s'occupait un peu de.
Du ravitaillement
ravitaillement, des questions administratives.
D'accord.
Comme un intendant militaire, dire.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça que quand Napoléon est arrivé à Bourg, pour avoir l'état de l'armée du Rhin, Napoléon a demandé tout de suite à rencontrer Jérôme Quinet, lequel n'était pas venu, il était allé à la pêche à la forêt de Seillon, disait.
Oui, parce qu'il détestait.
Il détestait,
Napoléon.
Voilà. Ouais. Donc il avait un caractère bien trempé. Bien trempé dans la ressource, peut-être.
Oui.
Mais enfin, le fils aussi avait un caractère bien trempé
oui, mais...
aussi. Mais disons, teinté de nuances
et
de douceur.
Sa Grâce à sa maman.
Grâce à la maman.
D'ailleurs, quand il était petit, il avait un petit copain qui s'appelait Gustin, je crois.
Oui, Gustin.
Voilà, qui avait 3 ou 4 ans de plus que lui. Et la mère avait vu que Edgar Quinet adorait le commander, ce petit copain.
Oui.
Et lui, ça lui donnait une certaine importance. Et donc, la mère, elle les a pris tous les deux. Elle leur a fait comprendre que le petit Gustin, lui, il fallait de la fierté. Et l'autre, il fallait aussi un peu d'humilité. Donc, il lui a donné une bonne leçon. Voilà, pour apprendre la fierté au petit Gustin et l'équité au petit Édouard. Donc, il a compris ça. En fait, il se rappelait de cette anecdote-là.
Voilà, ça l'avait, formé et tout.
Oui.
Et puis, la mère était toujours là. Était toujours,
tout le temps, oui.
Et même quand il sera étudiant à Lyon, au collège de la Trinité,
oui.
C'est-à-dire le lycée Ampère maintenant.
Oui, c'est ça.
Et quand il sera à Paris pour étudier le droit, il avait préparé Polytechnique quand même.
C'est ça, oui. Il n'est pas allé à l'oral.
Admissible à l'écrit.
Il n'a pas été. Il n'est pas allé à l'oral.
Voilà. Donc c'était quelqu'un déjà qui était bon élève, on va dire, puisqu'il avait appris les langues, un peu de latin, même beaucoup de latin. Il connaissait l'anglais, donc il l'avait appris tout seul.
L'allemand tout seul.
Il a appris l'allemand, on verra pourquoi. Oui. Il a appris l'allemand tout seul. Quand il avait une idée, il l'avait bien ancrée. Et donc,
il allait jusqu'au bout de ses idées.
Et sa mère a donc été originaire de Pontarlier.
Oui.
Elle avait la famille à Pontarlier. Peut-être aussi il y avait des membres de la famille à Genève. Mmh. Elle était calviniste. C'était un autre univers, cette religion. Et donc, et bien qu'il soit baptisé dans la religion catholique, même s'il a été anticlérical, les religions ont été pour lui toujours quelque chose qui comptait beaucoup dans sa vie.
Mais se méfier des jésuites.
Alors, il se méfiait des jésuites.
Avec le Michelet.
Oui, ben oui, il se méfiait des jésuites.
Parce qu'il disait c'était eux qui avaient apporté le malheur pendant la Révolution, je pense.
Bon.
Donc, on ne sait pas trop. Mais il détestait un peu les jésuites.
Mais oui, mais il faut dire alors quand même que c'était de très bons pédagogues.
Ah, voilà.
Très bons pédagogues. Quand ils ont été expulsés de France, à Berlin... C'était luthérien.
Oui, c'est ça.
Oui, donc ils les ont accueillis quand même, parce que c'était de bons...
Parce qu'ils avaient un grand savoir.
Voilà, grand savoir, et c'était des pédagogues nés.
Voilà.
Donc, à Berlin, ils ont discerné, c'est le cas de le dire, ils ont discerné, et ils ont fait venir les jésuites aussi.
C'est
donc,
ça.
Donc, Berlin montrait quand même une largeur de vue qu'elle n'a jamais bien perdue, même si plus tard après, il y a eu des frissons qui nous ont secoués en Europe. Mais c'est bon, c'est ainsi. Et donc, cette mère va être toujours pas présente et elle va
sans compter, être envahissante.
Elle laisse aussi la liberté.
Voilà.
Elle est présente. À l'âge de 3 ans, notre petit Quinet, donc 1803, donc il part en 1806, il part en 1806 avec sa mère, il monte en Allemagne, il monte à Cologne, parce que là-bas, la mère s'ennuie, on va dire aussi, et elle part en Allemagne rejoindre son mari. Qui était dans l'armée du Rhin.
Oui, c'est ça, oui.
Et c'était la ville de Wesel, 1806, qui était dans le département français de la Roer. C'est une partie située à l'ouest du Rhin, près de Cologne, et à l'est de la province du Limbourg aux Pays-Bas. C'est un point un peu stratégique aussi. Et là, ils ont retrouvé Jérôme Quinet, donc le mari et le père. Il est resté un certain temps et le petit, âgé de 3 ans, eh bien, il allait et venait parmi les soldats. Donc l'Allemagne déjà lui faisait un petit clin d'œil, car plus tard, on verra, par ses études et par son goût pour la langue du pays voisin, eh bien, puisqu'on verra même qu'il avait sa première femme était allemande aussi. Edgar Quinet a été, disons, confronté à l'histoire de l'Allemagne et de la Prusse et nous a avertis, après avoir été enthousiaste par l'Allemagne surtout, de Madame de Staël, s'est aperçu après que les desseins de l'Allemagne étaient surtout recouverts par la Prusse, qui n'a rien à voir avec les Germains.
Oui, c'est ça.
C'est là-bas, c'est la Prusse orientale. Oui. Aujourd'hui, c'est la Pologne, jusqu'à Königsberg. Aujourd'hui, Kaliningrad, qui est une enclave russe. On le voit à la télé très souvent, avec un regard sur la Baltique. On fait l'histoire d'aujourd'hui sans s'en rendre compte.
C'est ça.
Sans s'en rendre compte. Il y avait de l'ambre aussi. Et il y a eu une très belle exposition en ce moment à Königsberg, et puis aussi en France, sur l'ambre, tout ce que l'on faisait au point de vue artisanat grâce à l'ambre. Le Bernstein Museum, etc. Ensuite, il est rentré. Et bon, ensuite, il a eu des cours un peu particuliers pour apprendre le français, le vocabulaire. Bon, on lisait beaucoup la Bible. La maman étant protestante, il a découvert tout ceci. Il lisait vocabulaire et puis il apprenait beaucoup et très vite, ce Edgar Quinet.
Bah, il avait l'esprit vif.
Il avait l'esprit vif et puis tout l'intéressait. Il observait beaucoup et plus tard, eh bien, ce sera quand même non seulement un historien, mais c'est un, comme vous l'avez dit, un philosophe, un visionnaire.
Visionnaire,
il voit très loin. C'est un précurseur, un grand remueur d'idées.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà, comme on dit en Bresse, ça brasse.
Ça brasse.
Et puis, en même temps, des idées sur l'enseignement public, sur la spiritualité. Et puis, on verra ensuite qu'il a fait de bonnes études.
Ah oui, sérieuses.
Après, quand le père a quitté l'armée, il a été entreposeur de tabac. Il avait la recette aussi. Il a été nommé à Charolles.
Le tabac a toujours été maintenu par le gouvernement.
Voilà. Déjà. Et puis ensuite, il y a eu la recette.
C'est ça.
Et après Charolles, eh bien, ça a été...
Mais il est allé au lycée là-bas, à Charolles.
Alors, il est allé au lycée, à l'école à Charolles. Et bon, c'était une école un peu étrange. Il avait un ancien capitaine de dragons comme instituteur, on va dire. Et puis, il y avait un prêtre aussi défroqué, marié.
Oui.
Et puis, la mère était par là aussi.
Tout le temps, oui.
Donc, il a eu... Ce sont des précepteurs. Tout en attendant l'école, il avait un enseignement privé et public, si on peut dire.
C'est ça, les deux. Les deux.
Le père a trouvé que ce n'était pas suffisant. Retour à Bourg, et le voilà, au collège, rue du lycée, où il a quand même bien travaillé. Et ensuite, il va passer ses examens assez facilement, car il travaillait, mais il avait l'impression de ne pas travailler beaucoup, beaucoup. Il enregistrait très vite, il comprenait beaucoup. Et après, ça a été Lyon.
Voilà, il était à Lyon.
Il était à Lyon, au lycée Ampère, que vous connaissez. Je ne sais pas s'il y avait la passerelle avant.
Elle n'existait peut-être pas encore.
Mais le Rhône, lui, était toujours là.
Bien évidemment.
Le Rhône était toujours là. Bien, nous allons partir un peu en musique maintenant avec Jean-Sébastien Bach. On a parlé du Rhône, qui est un fleuve, mais Jean-Sébastien Bach, en allemand, Bach, c'est le ruisseau.
C'est le ruisseau, oui.
Donc, comme il pleut ces temps-ci...
Allons-y
un petit peu avec un premier concerto pour piano et orchestre.
Thank you.
Oui, nous nous retrouvons avec Gisèle et puis l'ombre de Edgar Quinet et de sa famille. Et nous les avons quittés. Nous avons quitté Edgar au lycée. Et il va aller ensuite à Paris. Il va étudier le droit. C'est voilà. La famille qui a décidé un peu. Oui. Bon, il était.
Quoique son père voulait qu'il soit militaire.
Hein. Eh oui, quand même, parce que pour la tradition de la famille.
C'est ça, voilà.
Mais enfin, bon. Qu'est-ce que vous voulez ? La famille est décidée autrement, donc il va être un peu juriste. Mais enfin, ça va lui servir pour apprendre, ça va lui donner une formation, on va dire.
C'est ça.
Une formation. Il a une sœur, mais aussi il a sa mère, et la mère a une sœur qui s'appelle Suzanne.
Suzanne, voilà.
Et cette sœur Suzanne, il s'entend très bien avec la tante Suzanne. Et celle-ci a fait 3 mariages, et voilà. Et 3 mariages, et au 3e mariage, eh bien, il rencontre un beau-frère de cette sœur, qui est en même temps un ami, qui est un Écossais,
voilà.
James Smith, qui a une 60aine d'années, et qui rencontre donc le jeune Quinet, âgé de 28 ans. Et puis, l'Écossais est surpris par la vivacité d'esprit de cet étudiant, de son savoir, de sa culture, de sa curiosité intellectuelle, on va dire. Et ils discutent beaucoup, tous les deux. Ils discutent beaucoup.
Oui.
Et un beau jour de février 47, ou même plutôt de 37, peu importe, mais il lui offre un livre. Il lui offre un livre écrit en anglais.
Merci.
Écrit en anglais d'un certain Herder. Alors, on ne sait pas ce que c'est Herder.
Oui.
Et il s'agit ici là, d'un auteur prussien. Qui est un théologien, un pasteur, un philosophe, un écrivain. Et donc, Quinet va lire dans le texte anglais, il va lire ce texte, l'histoire de la philosophie des idées de l'humanité.
C'est ça.
C'est très difficile, c'est... Bon, il faut vraiment
s'armer de courage. Mais lui, il adhère à ça.
S'armer
ça lui va
de courage.
Bien, voilà. Oui, oui.
Mais
oui.
Il a toujours été dans les idées, dans la recherche.
Bien
comme
sûr.
Vous dites, ça lui va bien,
mais
ça.
Oui.
Et on dirait que, en somme, ce Smith est l'homme du destin, final. Il lui met, à partir
sûrement,
du moment
sûrement.
Où il
c'est
lui
à partir
met,
de là, oui. Oui,
où
oui.
Son intérêt pour l'Allemagne
c'est,
va,
oui, c'est
va
ça.
Arriver. C'est ce qui est très curieux. Et donc, il lit ce livre et il veut le traduire
c'est
aussi.
Ça, voilà.
Il va le traduire en français. Il sera imprimé grâce à Berger, une famille de Strasbourg, Berger-Levrault, qui ont été des grands éditeurs au point de vue militaire aussi après. Et puis, comme c'est un Prussien dont il ne connaît pas la langue, pour mieux comprendre ce que dit l'auteur, eh bien, c'est facile, on s'arme de courage.
C'est facile,
voilà,
facile, oui.
Oui, et puis il se met à apprendre l'allemand tout
c'est
seul.
Voilà, tout seul, il a
tout seul. Et alors ce Herder qui est né en 1744 en Prusse orientale et qui est décidé à Weimar,
où il y avait
la ville de Goethe, oui, la République de Weimar
aussi.
Un peu plus loin,
oui.
Mais avant il y avait Goethe, c'était un foyer de génies, de poètes, d'écrivains.
Bien ah, ça grouillait d'intellectuels.
Voilà, Weimar, Goethe, Schiller, etc. Plus tard, il y a eu la République de Weimar, et plus tard, il y a eu le camp de concentration de Buchenwald.
Oui.
Là, l'histoire...
C'est autre chose.
Oui, il y a plusieurs pans, plusieurs versants, que sais-je. Et puis donc, ce Herder va influencer beaucoup le jeune Quinet. Jeune Quinet. Et c'est un théologien, Herder. 1803, il meurt en 1803, et c'est un signe du destin, si
mais
on
oui,
peut
c'est
dire.
C'est l'année de sa naissance.
C'est l'année de la naissance d'Edgar.
Edgar,
c'est très curieux. C'est très curieux. Donc, il étudie l'histoire. C'est un ami de Diderot, d'Alembert, des encyclopédistes. Il réside à Nantes et à Paris. Il est très francophile, ce Herder. Il va rencontrer le jeune Goethe à Strasbourg. Il sera plus tard nommé premier pasteur à Bückeburg, en Basse-Saxe. Et puis, il étudie la Bible, Homère, et puis Shakespeare. Ça, pour eux, c'est la base. Et puis, il proclame aussi l'importance des Volkslieder, c'est-à-dire des chants populaires allemands, les poèmes, tous ces textes qui font partie de l'esprit de la culture germanique. Et Herder s'intéresse aussi à l'histoire, qui est, pour lui, l'histoire est un drame sans fin. Un drame sans fin où chaque peuple et chaque époque apportent leur contribution au progrès, mais universel. Et pour lui, l'histoire se base sur chaque peuple comme une unité qui est liée par la langue, la culture et une histoire spécifique. Il n'est pas d'accord avec tout, Quinet, bien sûr, mais cela va lui faire une base, un socle, on peut dire, pour vraiment s'intéresser et pour ensuite...
C'est une base intellectuelle, quand même.
Une base intellectuelle. Oh, oui, je pense, oui. Ce Herder a fait beaucoup pour les peuples. Il a parlé de l'unicité de chaque peuple, qui était représenté par le courant des Lumières, Aufklärung, outre-Rhin, et protégé par Goethe, ce qui était âgé. Ce dernier fera nommer Herder comme superintendant ecclésiastique. C'est important, c'est la religion protestante, là aussi. Et donc, cela se rapproche un peu de Quinet, qui a été formé aussi par une mère qui était aussi calviniste en même temps. Voilà ce qu'on peut dire sur von Herder. Morhagen maintenant, en 1744, et Weimar, 1803, la date du départ de Herder et l'arrivée de Quinet. Je ne sais pas, ils se sont croisés d'une certaine façon, finalement, peut-être.
Oui, par les écrits.
Par les écrits, par les idées, par les écrits. Alors, il va partir parce qu'il veut visiter, il veut étudier ce peuple dont il a appris la langue, et tout seul en travaillant d'arrache-pied. Et il va écrire à sa mère qu'il a décidé de partir à l'université d'Heidelberg, fondée en 1386. Et donc, il va d'abord s'installer en Alsace.
Strasbourg.
Il va s'installer à Strasbourg. Et donc, il écrit le 20 décembre 1826, « Je vous écoute, nous vous écoutons. »
Décidément, ce climat de Strasbourg ne me convient pas. Bronchite, fièvre. Je le quitte pour l'université d'Heidelberg, la plus ancienne université d'Allemagne, fondée en 1386. Depuis longtemps, j'avais ce projet. Je vais voir de mes yeux l'Allemagne, peut-être le seul homme de génie qu'il reste dans ce pays, Georges Frédéric Reuser, archéologue et philosophe, 1771-1858, avec cela une vie nouvelle, un peuple à étudier, que de choses font battre mon cœur. C'est ça, en fait.
C'est ça.
Cette connaissance m'étant indispensable, tout languit par celui...
Pour celui
qui ne franchit pas les frontières de son pays.
Voilà. C'est intéressant, cette lettre à sa mère. Donc, il quitte Strasbourg parce que le climat ne lui va pas. Mais il part à Heidelberg. La Heidelberg, ça veut dire le mont aux myrtilles.
Berg, sympa.
C'est sympa. Berg, c'est la montagne. Heidel, ce sont les myrtilles. La plus ancienne université d'Allemagne, 1386.
Voilà.
Il avait ce projet déjà dans la tête.
Oui.
Donc, il veut voir Kreutzer, mais aussi cela lui offre une vie nouvelle, un peuple à étudier. Donc, il est terre à terre, il n'est pas uniquement que deux choses font battre mon cœur. Cette connaissance lui est indispensable. Et pour bâtir, pas son système, mais pour bâtir, en peut-être sans le savoir, son œuvre. Et il y a une seconde lettre à sa mère, du début février 1827. Que dit-il ?
Je considérais son passe à passer ma vie entière dans cette ville d'Heidelberg, tant qu'un devoir ne m'appellerait ailleurs. Dans le temps de ma vie où je suis, je considérerais comme un vrai malheur tout ce qui ne pourrait ne m'en éloigner.
Voilà. Donc, dans le temps de ma vie où je suis, je considérais comme un vrai malheur tout ce qui pourrait m'en éloigner. Bon, il a l'air content, il a l'air heureux.
Oui, ça lui va.
Là-bas, ça lui va. Ça lui voit. Il connaît la langue, il l'a apprise.
Mais il se sent à l'aise quand même.
Il se sent à l'aise dans le pays. Il se sent à l'aise. Et il va dire aussi, il y a une lettre intéressante que nous avons retrouvée. Et on a son point de vue sur l'université d'Heidelberg, vue par un Bressan finalement.
Mais voilà.
Hein, vu par un Bressan, un Burgien si vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui vient d'ici et donc qui voit cette... nous sommes en 1827, il y a le souvenir des armées napoléoniennes, etc. Et lui arrive à cette université. Que dit-il ? Tout est fait ici, tout est préparé pour l'étude et la gloire qu'elle donne. Comme les professeurs sont en même temps pour la plupart en possession de l'administration judiciaire et civile, tous éligibles à la chambre élective, et que c'est à eux que le peuple doit son aisance et son repos, il a conservé pour eux ces traditions de respect et d'une confiante soumission qui datent du plus loin du Moyen-Âge. Et en effet, c'est la même organisation qu'au XIIIe siècle. L'université a les mêmes droits, et l'on a sagement maintenu ce qu'il y avait de libre et de protecteur dans cette institution républicaine. C'est important, ça. C'est entre les étudiants et leurs maîtres une confraternité dont nous n'avons en France aucune idée. Il faut voir à l'anniversaire de chaque professeur ses étudiants au nombre de 700 ou 800 se réunir sur une immense place à l'approche de la nuit, tous avec des torches allumées, et défiler lentement dans la ville derrière une musique militaire qui appelle toute la population à la porte de celui dont elle célèbre ainsi la fête.
Pour l'anniversaire du professeur.
Ouais. Voilà. Par là aussi, je retrouve l'antiquité grecque et orientale, la solennité, le sérieux et une pompe discrète. Mmh. Fin de citation. C'est très bien vu.
Bien sûr.
C'est à l'opposé de ce que nous vivons ou de ce que nous vivions, nous, à l'époque, nous, en France. Et je dirais que pour lui, c'est un monde nouveau. Cela rappelle les défilés populaires du vendredi en fin d'après-midi dans les villes de Prusse autrefois.
C'est ça, ils défilaient comme ça.
Ils défilaient, ouais. C'était derrière la musique de la garnison ou l'harmonie municipale. La population était invitée à suivre, à faire plusieurs fois le tour de la cité en rang. Et peu à peu, la foule était emportée par les rythmes et se mettait silencieusement au pas cadencés.
C'est ça.
Voilà. On faisait bloc. Ainsi, garçons et filles apprennent les rudiments de la discipline et de la chose militaire. Et le tout en musique, toujours.
Oui, c'est ça, oui.
Toujours. Nous sommes avec Jean-Sébastien Bach aujourd'hui. Tout à l'heure, nous aurons Johannes Brahms, que vous aimez particulièrement.
Oui, oui.
Et Brahms est arrivé, nous l'a dit. Le défilé se termine devant le domicile du professeur héros du jour, puis devant l'hôtel de ville, et les participants se retrouvent joyeusement à l'auberge, où les conversations vont bon train, et le chant choral a toute sa place.
Oui,
voilà, un verre de bière, une chope de bière, et tout ça rend la vie joyeuse.
Tout est parfait,
si on peut dire, connaissant la suite, mais enfin, ça nous montre pas mal de choses. Nous avons aussi un hommage à la ville de Heidelberg, et c'est votre charmante voix qui va nous parler du murmure de l'eau du Neckar.
Oui, c'est bizarre, oui.
Alors allons-y. L'eau...
L'eau murmure sous le balcon des électeurs. Les cerfs boivent à l'ombre de la vallée. Écoutez le cor de chasse des étudiants dans les tours, et puis le chant des pèlerins, et puis le bruit de l'orgue, qui c'est vraiment le chant de Neckar.
Ressemble à un serpent qui a perdu derrière lui sa robe.
C'est ça.
Les cerisiers fleurissent, le saint s'endort dans sa chasse et le Rhin dans le creux de son lit.
Voilà.
Pour lui, Heidelberg, c'est le vieux château en ruine,
c'est ça, voilà,
que nous avons détruit sous Louis XIV, entre parenthèses.
Ah oui, oui.
Oui.
Mais quand on va en Allemagne, ils vous le disent bien d'ailleurs.
Ils nous le disent, voilà. Ils sont rattrapés ensuite en s'installant à Versailles dans la Galerie des Glaces.
Oui, c'est
mais ça,
c'était la vengeance.
Voilà. C'est la vallée intime et c'est le murmure du Neckar. Et notre Edgar Quinet est sensible à cette vie musicale de la cité. Il y a beaucoup de petits orchestres en plein air, ça n'a pas songé d'ailleurs. Dans les jardins, il y a des concerts d'orgue. Les portes des églises sont ouvertes pour que tout le monde puisse en profiter.
C'est ça, voilà.
On entre, on sort silencieusement. Exaltation, dira Quinet. Bonheur, extase, joie profonde et communicative. Insouciance. Mais il est prisonnier en même temps d'un lieu unique. Il est fixé sur Heidelberg. C'est un très beau choix, mais parfois, il y a aussi le revers de la médaille. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore pour finir ?
Ah, combien la paix de cette vallée m'était nécessaire. Que toute ma jeunesse y puisse passer les temps difficiles. Mon éducation intérieure se forme et s'achève. Le souffle de la France m'avait déjà bien altérée et il était temps de venir où je suis. Tous mes sentiments s'apaisent et se calment. J'écrirai les hymnes sur ce repos, sur la fraîcheur des bois, sur le calme du cœur. En vérité, sans cette petite ville, je n'aurais su ce que c'était que de vivre. Pas une vallée, pas un recoin de ces bois, pas un détour de Necker ne me plaît autant que ma douce Edelberg.
Et voilà, c'est vraiment une déclaration d'amour à la ville.
C'est ça.
C'est vraiment une déclaration d'amour à la ville. La paix de cette vallée, la jeunesse y puisse passer des temps difficiles. L'éducation intérieure se forme et s'achève. Le souffle de la France m'avait déjà bien altéré. Il était temps de venir où je suis.
C'est ça.
Les sentiments s'apaisent. Il va écrire des hymnes sur ce repos. La fraîcheur des bois, c'est idyllique, c'est le retour à la nature, c'est du Rousseau, presque.
Oui, oui.
En vérité, sans cette petite ville, je n'aurais su ce que c'est que vivre. C'est fort. Pas une vallée, pas un recoin de ces bois, pas un détour d'une écart ne me plaît autant que ma douce Heidelberg. C'est vraiment, quand on connaît la ville, qui est restée, le centre-ville est resté, imaginons, une immense Pérouse, on va dire.
Ah oui, ils ont gardé l'authenticité.
L'authenticité, bon, c'est une ville qui a...
Beaucoup
évolué. À l'extérieur, c'est la ville très moderne, même très américanisée. Bon, l'armée américaine est toujours là-bas, c'est la tradition.
Oui, oui.
Mais pendant la guerre, Heidelberg a été modérément bombardée parce que beaucoup d'officiers de l'armée de l'air américaine étaient d'origine allemande. Et certains avaient même la grand-mère qui était du coin.
Encore là-bas, oui.
Donc on comprend ceci, cela. Peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, à une époque où on fait la bombe un peu trop maintenant. Et il y a les lettres aussi d'un voyage immobile. Il passe des heures auprès d'une écart. C'est le romantique.
C'est ça.
C'est le romantique. J'éprouvais toutes les impatiences d'un oiseau dans le moment de la migration. Non pas que je voulusse partir pour un pays étranger, je voulais émigrer vers ce nouveau monde moral, vers ces idées entrevues qui me fuyaient à mesure que je m'en approchais. Et donc, pour lui, c'est une vision du monde recherchée depuis des années. Et on va écouter en musique, puisqu'on va danser. On va danser grâce à la troisième danse hongroise de Johannes Brahms. Et c'est parti. Thank you. Eh bien, nous retrouvons Gisèle et puis Edgar Quinet. Et puis Brahms est venu nous saluer avec ses danses hongroises. Joliment, c'était la numéro 3. Et après, nous finirons avec la numéro 5, qui est mondialement connue et qui évoque la Puszta, c'est-à-dire la grande plaine de Hongrie. N'oublions pas que Brahms était né à Hambourg, mais ensuite, il a préféré s'installer à Vienne, qui était plus accueillante et moins froide.
Puis c'était une ville très active, Vienne,
c'est
à l'époque.
Très active, c'est à la ville de la musique.
Mais c'est ça, voilà.
La musique. Et au grand cimetière de Vienne, au Zentralfriedhof, au cimetière central, dans le coin des artistes, des poètes, eh bien, il y a un petit monument, un cénotaphe qui rappelle Mozart, mais qui n'y a personne.
Mais non.
Et devant, eh bien, devant, il y a donc Beethoven. À côté, il y a donc Brahms. Et à côté, il y a Schubert.
C'est et derrière, le coin des musiciens.
Le coin des musiciens. Et derrière, sous des sapins, il y a la famille, la famille des grands compositeurs de valse, à savoir la famille
Brahms.
Strauss. Puis il y en a d'autres, Kurt Jürgens, etc.
Des artistes, en fait.
Lily Palmer, etc. Le coin des artistes et des musiciens. Donc notre Quinet, eh bien, un soir à Heidelberg, il assiste à un concert, et puis il y a des jeunes filles qui chantent, et
il rencontre
une jeune fille qui est en bleu.
C'est ça.
Et donc, tout de suite,
il est attiré par elle.
Mina More, qui est la fille d'un notaire. Un notaire, c'est une famille, les Moré, M-O-R-E, ce sont des Huguenots originaires de Metz. Voilà. Et puis, il va apprendre, il y aura le temps des fiançailles,
voilà.
Qui est beaucoup plus long que maintenant.
Oui.
Voilà, les années vont passer aussi. Et il va étudier finalement, c'est un poste d'observation extraordinaire, je m'excuse, mais il voit comment la vie allemande est vraiment... différente chez nous.
Tout est bien réglé,
je disais, prévu. Et ça lui convient un petit peu aussi, parce que déjà, par la rigueur un peu religieuse de sa mère, il a un petit peu cette impression-là. Pour lui, c'est pas nouveau. Il s'adapte.
Ça lui va très bien.
Et il souhaite que cela n'apporte que lui bonheur et que tout aille bien. Il va quitter l'Allemagne aussi, il va aller en Grèce, il va s'occuper. Il va revenir bien plus tard et il y aura le mariage. Et plus tard, il reviendra en France avant d'être exilé. Et puis avec Mina More, qui malheureusement décédera à Paris.
C'est vrai.
Assez brutalement. Il se remariera un peu plus tard avec Hermione. Elle est d'origine roumaine. Et donc, il l'avait connu indirectement lorsqu'il donnait des cours au Collège de France. Et comme il avait été un peu dur vis-à-vis de la religion,
c'est pour ça qu'il avait été...
Au Collège de France, les portes sont refermées sur lui.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà. Et puis, il y a eu aussi Napoléon III, il y a eu aussi le coup d'État.
Ah ben voilà.
Le coup d'État, comme il n'était pas d'accord, il se retrouvait à boire de la bonne bière... En Belgique, à Bruxelles.
Ben, il est obligé de s'exiler.
Il s'est exilé. Ensuite, il aurait pu rentrer, mais le revoilà sur les rives du lac Léman, comme nous avons dit. Et il ne rentrera en France qu'après Sedan.
Après 1870.
Il va retrouver le pays. Et donc, ça sera une vie assez curieuse, assez étrange, on peut dire. Mais quand même, c'est quelque chose qui nous montre que c'est un être qui a su s'adapter et qui est resté bien avec ses idées tout en s'adaptant un peu tous les jours. Ce qui est intéressant, ce qu'on ne sait pas trop en France, et c'est dommage, c'est qu'il s'est vraiment, je dirais entre guillemets, emmouraché, si je puis dire, de l'Allemagne dépeinte par Germaine de Staël. Qui a résidé tout près de chez nous, Château de Copé,
Château, oui, c'est ça.
En Suisse. voilà, dans son ouvrage de l'Allemagne, elle avait représenté l'Allemagne tout à fait différemment. C'était une autre époque.
C'était plus romantique.
Plus romantique, un pays d'extase.
Voilà.
Elle dit un pays d'extase, un rêve continuel, une science qui se cherche toujours, un enivrement de théorie. Tout le génie d'un peuple noyé dans l'infini, voilà pour les classes éclairées. C'était aussi des sympathies romanesques, un enthousiasme toujours prêt. On était heureux. C'est, comme on dirait aujourd'hui, il n'y avait que du bonheur un petit peu dans cette Allemagne.
Mais c'était peut-être un peu surfait quand même.
Oui, parce, très bien.
Ben oui.
Parce que ce pays était aussi disséminé.
Voilà.
Ce pays était disséminé. Il était disséminé, il y avait des principautés, des duchés. L'Allemagne n'existait pas. Elle était parsemée de ci, de là.
Elle a été réunifiée en 70.
Alors, le danger, c'est que, comme vous dites, c'est qu'il avait, il avait senti, le visionnaire avait vu très tôt, il avait un beau-frère qui s'appelait Johannes Dittmar. C'était un professeur prussien qui avait écrit beaucoup sur l'Allemagne, la Prusse, même l'Espagne, était passé l'Europe. Un écrivain, et cette sorte de dispersion des territoires allemands l'inquiétait beaucoup et souhaitait un jour que une sorte de réunification de tous ces territoires. Seulement derrière, il y avait un autre territoire que nous n'avions pas vu, sauf sur les champs de bataille, et là, c'était la Prusse.
Et oui.
La Prusse des bords de la Baltique, assez loin de chez nous, sur la Pologne d'aujourd'hui, et même au-delà. Dans Prusse, il y a le mot russe. Ce sont des beaux russes, c'est-à-dire pas des beaux B-E-A-U, mais des beaux B-O-R-U-S-E, des Slaves en même temps, et qui naissent et disent, si un beau jour ces deux entités
se réunissent,
ça sera, je pense que ça sera dirigé.
Il y aura une force énorme qui va être présentée là.
Peut-être
voilà.
Contre la Russie.
Et parce qu'ils étaient juste à côté.
Peut-être contre la Russie, mais aussi ça sera pour nous.
Et oui.
Et donc il a essayé. Madame de Staël est partie là.
Elle était à Genève.
Elle était partie à Genève, si on peut dire. Il y a eu le grand écrivain philosophe. Il y a eu Renan aussi, qui adorait l'Allemagne. Il m'a dit, j'ai adoré cette maîtresse et qui, après 70, a dû déchanter.
Bien évidemment.
Bien sûr, il y a eu Taine, il y a eu Victor Hugo aussi.
Oui,
qui était, tous ceux qui aimaient bien Michelet aussi, qui adoraient ce pays.
On sent tous revenus.
Oui, c'était difficile. Leur politique a été assez ignorée, d'autant plus que la Prusse n'était pas disséminée, mais c'était un État.
Voilà.
C'était un État qui tenait et qui avait donc bénéficié, qui avait accueilli tous les malheureux d'Europe. Et nous, les Français, les Huguenots, beaucoup, pas tous, mais beaucoup ont émigré, d'où il n'y a qu'à voir les noms d'origine française, dans le vocabulaire allemand, bien sûr. Et donc, toute sa vie, il va continuer à lutter contre une certaine politique, à avertir que ce pays ne mérite une grande attention. Après la guerre de 70, Quinet est surpris que nos uniformes soient très voyants.
C'est comme ça que...
Oui.
Avec les pantalons rouges.
Voilà.
C'était facile de nous tirer dessus.
Voilà, en 70, ils savaient que les Prussiens étaient habillés en vert ou en noir ou en bleu foncé. Nous, on avait du joli rouge.
Ah oui.
Et il était allé au ministère pour protester.
Ils n'ont pas voulu l'écouter, hein?
Non. 72, 73, on lui a dit, revenez à vos chères études.
Oui, vous occupez de ce qui vous regarde.
Voilà.
Occupez-vous de ce qui vous regarde.
Et puis après, on a vu ce qui est arrivé et tout ça. Et pour finir, nous avons donc un petit panorama de conclusion que vous pouvez, de votre jolie voix, lire ce petit texte qui nous fait un résumé sur Quinet tel qu'il était, le philosophe, le penseur, et puis, c'est un Burgien qui a fait beaucoup, mais qui malheureusement est complètement oublié.
Parce qu'il y avait quand même une statue qui était érigée, elle a été fondue pendant la guerre de 40.
Oui.
Bien évidemment, les Allemands l'ont fait fondre pour l'acier.
Ben oui,
voilà.
C'est dommage. Pour le faire.
Et donc, il reste quand même une petite statue.
Alors, il reste, qu'est-ce qui reste? Alors, il y a un monument, c'est après, ça. Il y a un monument qui est derrière le monument aux morts,
oui.
qui est entre les Quinconces. Nous y sommes passés ce matin. Il y a un monument qui a été inauguré en 1970. Il y a les titres des œuvres. Et il y a aussi un masque représentant Quinet.
Voilà.
Quinet. Il y avait aussi, il y a le lycée Edgar Quinet, bien sûr.
Oui.
Il y a la rue Edgar Quinet. Il y a la place Edgar Quinet. Et puis cette statue dont vous parlez. Ensuite, après avoir été vers le Quinconce, en 1925, a été déplacée pour pouvoir installer le monument aux morts d'Alphonse Muscat. Mmh. Et cette statue qui représentait Quinet assis sur un fauteuil, en train de parler, d'enseigner, cette statue s'est retrouvée là où maintenant il y a la Vizirette.
À la place de la Vizirette.
La Vizirette, voilà. La Vizirette est dans une sorte de creux, alors que le monument de Quinet, le socle, était au contraire sur une sorte de
tertre.
De tertre, voilà. Avec le socle, je me souviens très bien. Et puis après, on l'a déplacé tout ça au lycée d'Irquinet.
Voilà.
Avec une statue où on voit Quinet debout, qui se tient bien sur ses jambes. Et bon, c'est l'ouverture. Et puis toujours, en pensant à Sertine. À Sertine, il n'y a plus la maison.
Non.
Mais à côté du centre-ville, vers le carrefour à Sertine,
à la
près
place de
l'école.
De la maison.
Oui, à la place, vous avez un petit pan de mur avec une petite porte. Et c'est ce qui reste
de la propriété
de Quinet, qui était déjà chez les Quinet depuis le XVIe siècle.
Et oui, c'était une maison familiale.
Voilà, tout à fait. Voilà. Pour finir, reprenons ce que nous avons dit sur ce cher Bressan.
Cet historien brugien, oublié même dans une bonne ville qui est Edgar Quinet, alors il est né le 17 février 1803, il est mort à Versailles le 27 mars 1875.
Tout à fait.
Fut aussi philosophe, écrivain, homme politique, poète, traducteur, travailleur acharné. Ça étonnait ça de son père. Hein
oui.
Très sensible, polyglotte, nourri de langues anciennes, féru d'histoire, cet artisan de la République, marié d'abord à une jeune fille allemande, fut défenseur des libertés et grand voyageur, surtout outre-Rhin. Il élabora très tôt une grille d'analyse dont les événements en Europe démontreront la pertinence peu avant 1870. Ouais. Elle repose sur la conviction que la pensée profonde continue nécessaire et irrévocable, qui travaille ces États germaniques et la réalisation de leur unité. Il ne cessera d'avertir Paris sur les dangers émanant de notre voisin germanique immédiat, enserré au creux de l'Europe entre deux grands pays difficiles à saisir, changeants et cependant immuables, la France et la Russie. Il annoncera la venue d'un être providentiel qui, au XIXe siècle, réalisera cette unité allemande. Oui. La grande erreur de la France apparaîtra doublement. Longue ignorance de la dynastie d'Outre-Rhin et croyance naïve, voire légère, en la vision rassurante et sécurisante de Madame de Staël, 1766-1817. Privilégiant une Allemagne des penseurs et des poètes. Ah, si nous avions écouté Edgar Quinet.
Eh bien, nous vous avons écouté avec plaisir, ma chère Gisèle. Merci beaucoup. Merci à Jimmy, qui était à la technique. Et nous retrouvons donc Johannes Brahms avec la cinquième danse hongroise.
Très connue.
Merci, au revoir.